Voici les deux textes liturgiques pour ce premier dimanche de l'Avent. L'épître est tiré de saint Paul aux Romains. Mes frères, l'heure est venue de nous réveiller, puisque le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons reçu la foi. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière, comme en plein jour, marchons avec honnêteté, non pas dans les excès de table et dans l'ivrognerie, dans les impudicités et les dissolutions, dans les querelles et dans l'envie, mais revêtons-nous, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, détresse des nations à cause du bruit, confus de la mer et des flots, les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Quand ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. » Il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Lorsqu'ils commencent à produire leurs fruits, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout ne s'accomplisse, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Cette semaine, donc, je vais prêcher les exercices Saint-Ignace ici pour notre ami de la Réunion, pour qu'ils commencent les bons pieds, leur présence en métropole. Alors, donc, ça fait des changements au niveau des horaires de messe cette semaine, pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Demain, lundi, messe à 10h. Et ensuite, c'est les horaires des retraites, c'est-à-dire mardi, mercredi, messe à 7h30, jeudi, messe à 7h, donc pour l'enfant prodigue. Et vendredi et samedi, messe à 7h30. Dimanche prochain, bien sûr, retour aux horaires normaux avec la messe à 10h. Donc, priez bien pour cette retraite. Donc, je vous rappelle que le calendrier des retraites 2022 a été publié. Donc, j'ai encore une place, je crois, pour la retraite de Semaine Sainte. Et la retraite de juin, est encore une place seulement. Ça se remplit assez vite. Donc, je demande à ceux qui sont intéressés pour la retraite de ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire, pour que je puisse m'organiser pour ces retraites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons donc aujourd'hui une nouvelle année liturgique, donc je vous souhaite à tous une bonne et sainte année. Je pense que la grâce à demander, c'est la grâce de conserver la charité pendant toute cette année, conserver l'état de grâce. Essayons de réaliser un petit peu quelle a dû être le premier avant d'être Sainte Vierge Marie. En quelles circonstances, en quel état d'esprit la Sainte Vierge Marie a-t-elle dû suivre son premier avant alors qu'elle était enceinte de l'enfant Jésus, hein? Quelle a été sa façon de se préparer à cette fête de Noël? Il faut se mettre un petit peu dans les mêmes dispositions. Vous verrez que pendant l'Avent, la plupart des textes liturgiques, des oraisons surtout, sont centrés sur la très sainte Vierge Marie. Et la vertu particulière à demander pendant ce temps de l'Avent, c'est la vertu d'espérance. Le temps de l'Avent est un temps entièrement centré justement sur l'espérance, c'est-à-dire le désir du ciel, le désir de notre Seigneur Jésus-Christ, le désir de posséder notre Seigneur. Donc il y a plusieurs choses à faire pendant ce temps de l'Avent. D'abord se mettre en route, bien sûr, rechercher le chemin qui mène à la crèche et commencer à se placer sur ce chemin pour s'avancer vers notre Seigneur. Et deuxième chose, c'est préparer le cadeau. On ne va pas arriver devant notre Seigneur les mains vides, hein. Ça ne se fait pas. Donc il y a deux sortes de cadeaux. Les cadeaux que le bon Dieu attend de nous et les cadeaux que le bon Dieu va nous donner. Donc pour recevoir les cadeaux que le bon Dieu a prévus de nous donner pour cette fête de Noël, il faut aller à la crèche. Il faut se baisser, s'humilier. Il faut passer dans la crèche. Et les pères de l'Église qui font remarquer que l'entrée de la crèche est basse, qu'il faut s'humilier, se baisser pour rentrer en présence de la Sainte Famille. Donc il faut demander cette grâce. de venir vers notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce qu'il faut demander, la prière qu'il faut faire, c'est « Mon Dieu, qu'attendez-vous de moi? Que voulez-vous que je fasse ?» La prière de Saint Paul, au moment où il est jeté de son cheval sur la route de Damas, notre Seigneur lui apparaît, se retrouve aveugle, et il entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui êtes-vous, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et vaincu par la grâce, écrasé par la grâce, littéralement, Saint Paul va dire « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» C'est le début du cheminement apostolique extraordinaire de Saint Paul, c'est la même chose pour nous. Vous dire, bon Dieu, voilà mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Quel est le cadeau que vous attendez de moi pour cette fête de Noël? Vous préparez le cadeau. Et dans la mesure où je prépare un cadeau pour notre Seigneur Jésus-Christ, en fonction de ce qu'il attend de moi, le bon Dieu, lui, répondra et nous offrira aussi ses cadeaux. Il faut avoir l'humilité de chercher quel est le cadeau que notre Seigneur Jésus-Christ veut recevoir de moi. Il n'attend pas une plaque de chocolat. Hein. Il attend quelque chose de bien précis. Quel est l'effort particulier, quel est le sacrifice particulier, la chose particulière que le bon Dieu attend de moi. Alors pour essayer de creuser un petit peu ces choses-là, pour bien comprendre quel est l'état d'esprit qui doit être le nôtre pendant ce temps de l'Avent, il suffit de regarder tout simplement le début de l'épître. Iam nos de somnos surgere. Il est temps de se réveiller. Le bon Dieu nous demande de nous réveiller. Et dans l'oraison d'aujourd'hui, la collecte, la même chose est dite. Réveillez, Seigneur, votre puissance. Nous réveiller et réveiller notre Seigneur. Notre Seigneur, il ne dort pas. Mais pendant le temps de l'Avent, il va réveiller ses grâces. En quelque sorte, il va donner un coup de feu sur ses grâces. Ce temps de l'Avent, un temps de pénitence, c'est un temps de grâce spéciale. Les grâces sont surtout données pendant les temps de pénitence, donc surtout pendant l'Avent, le carême. Donc il faut demander au bon Dieu ce réveil. Qu'est-ce que veut dire ce réveil? Qu'est-ce que signifie ce réveil? Il faut sortir d'un espèce d'état de torpeur qui est le nôtre. Avec l'arrivée de l'hiver, on a tendance un peu s'endormir spirituellement parlant. Ce que l'Église appelle l'acédie. L'acédie, c'est une faille dans notre âme, une espèce de paresse spirituelle. Une paresse spirituelle, une espèce de fatigue spirituelle. On est fatigué de prier, on est fatigué d'utiliser les sacrements, on est fatigué de toujours rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. On se décourage. Cette acédie entraîne le découragement. Le signe de l'acédie, il faut bien le connaître. Il est très précis. Le signe de l'acédie, c'est le dégoût des choses de Dieu. Le dégoût des choses de Dieu, c'est le dégoût des choses spirituelles. Ce n'est pas un péché d'être dégoûté. C'est une épreuve que le bon Dieu permet. Sauf si c'est nous qui provoquons ce dégoût, bien entendu. Donc ce dégoût des choses de Dieu est extrêmement important. Imaginez un époux, c'est une comparaison qu'on peut donner à un époux qui aime son épouse, mais qui commence à être fatigué de dire à son épouse « je t'aime ». C'est quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, quand un époux se rend compte qu'il a du mal à dire à son épouse « je t'aime », l'inverse est également vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut s'occuper sérieusement de ce problème. Mais c'est la même chose avec les bon Dieu. On est un petit peu fatigué de dire au bon Dieu « mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je voudrais tout vous donner. » On a du mal à dire ces choses-là. Alors essayons de bien examiner un peu ce que représente justement ce dégoût des choses spirituelles, comment cela se manifeste. Et lorsqu'on commence à voir pointer le bout du nez de ce dégoût, faire tout de suite très attention. C'est comme une faille dans un mur de protection autour d'une maison. Vous voyez, un mur de protection autour d'une maison, sur un château fort, un rempart qui commence à se fissurer, il faut tout de suite s'en occuper. Parce que si on ne s'en occupe pas, qu'est-ce qui se passe? La faille va s'agrandir, va finir par devenir irréparable. C'est la même chose pour nous. Donc encore une fois, avoir ce dégoût des choses de Dieu n'est pas quelque chose en soi de pécamineux, la plupart du temps. Souvent, c'est tout simplement une épreuve que le bon Dieu permet. Mais il faut que ça soit en quelque sorte une espèce de signal lumineux, une espèce de clignotant qui s'allume, qui nous indique attention, danger. Alors, je voudrais creuser un peu la chose pour voir dans quelle mesure, dans quelles circonstances s'applique ce dégoût. Je pense que ce dégoût des choses spirituelles s'applique surtout dans deux domaines. Le premier, c'est le dégoût de la confession. On commence à se dégoûter de la confession. C'est très fréquent chez les adolescents. Les adolescents arrivent à 16-17 ans, surtout chez les garçons, il y a souvent ce dégoût qui arrive. Ils ont de plus en plus de mal, il faut vraiment les traîner au confessionnal. Ils se dégoûtent du confessionnal. Et pourquoi? Parce que je pense que ça vient d'une erreur qu'on commet tous concernant la confession. On a trop tendance à considérer la confession exclusivement comme un sacrement pour enlever le péché mortel. Bon, c'est vrai que la confession enlève le péché mortel quand il y a les conditions de contrition, d'accusation, de réparation qui sont remplies, qu'on soit vraiment l'absolution. C'est vrai. Mais il est dangereux de considérer uniquement l'aspect curatif de la confession. Parce qu'instinctivement, qu'est-ce qui va se passer? On va associer la confession au péché mortel. Et donc, on va aller se confesser exclusivement quand on a un péché mortel. Alors, c'est déjà un mauvais signe. On utilise la confession que quand il y a un gros problème. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il faut aussi utiliser la confession de manière préventive. Imaginez quelqu'un qui me dit, Monsieur l'abbé, j'ai plein de tentations. De la foi, l'espérance, la charité, la pureté, je ne sais quoi. Je n'ai pas accepté ces tentations, Monsieur l'abbé, c'est une espèce d'obsession toute la journée, de tentations, de tentations, de tentations. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Confessez-vous. Mais je n'ai pas commis de péché. Confessez-vous quand même. Pourquoi? Parce que la confession est un acte d'humilité. Non seulement c'est un acte d'humilité, c'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Ça, on a beaucoup de mal à comprendre. Donc en fait, il faut arriver à changer un petit peu l'état d'esprit qui est le nôtre concernant la confession pour réaliser que la confession, c'est aussi un sacrement qu'il faut utiliser comme un acte d'amour à l'égard du bon Dieu. Un acte de charité qui est basé évidemment sur la foi et l'espérance. On peut expliquer tout simplement avec la parabole bien connue du pharisien et du publicain. Publicain qui reste à la porte de l'église, qui n'ose même pas rentrer dans l'église, qui dit simplement, mon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi parce que je suis un pécheur. Et on offre ses péchés passés au bon Dieu. Même ceux qui ont déjà été pardonnés, rappelez-vous Saint Jérôme, vous connaissez bien cette histoire que j'ai souvent expliquée en sermon, Saint Jérôme qui médite le soir de Noël, le jour de Noël, au lieu de la crèche, au lieu de la naissance de notre Seigneur à Bethléem, notre Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît, qui lui demande un cadeau pour son anniversaire, et qui demande comme cadeau, donne-moi tes péchés que je puisse les repardonner. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pendant ce temps de l'Avent. Donc, considérez la confession comme un acte d'amour. Donc, même si on n'a pas de péché, simplement dire, mon Père, je m'accuse de tous les péchés de ma vie passée. C'est un acte de foi d'abord. Un acte de foi extraordinaire. Pourquoi? C'est un acte de foi au sacerdoce. Vous donnez à un homme qui est pécheur comme vous le pouvoir de pardonner vos péchés. Vous dévoilez des choses tout à fait intimes au prêtre. Donc faites un acte de foi. Je reconnais que, ô mon Dieu, vous avez donné le sacerdoce ici-bas sur la terre au prêtre et que vous avez donné au prêtre le pouvoir de pardonner les péchés. Ceci est un acte d'espérance. Pourquoi on se confesse? On se confesse parce qu'on va aller au ciel, pardi. Donc c'est un acte d'espérance qui nous fait tourner notre regard vers le bon Dieu. On a envie de regarder les choses de cette terre, on est attiré par la boue du monde moderne. Et qu'est-ce que fait la confession? La confession nous oblige à élever les yeux vers le ciel et considérer notre Seigneur Jésus-Christ qui nous attend au ciel. Et donc c'est aussi un acte de charité, un acte d'amour. Donc il ne faut pas penser à ça. Mais je pense que c'est une erreur. J'ai remarqué ça souvent, souvent chez les adolescents. Il n'aime pas la confession parce que qui dit confession dit péché mortel. Confession, c'est aussi un acte d'amour du bon Dieu. En pensant à nous confesser régulièrement, il est difficile de donner, il n'y a pas d'obligation de fréquence. Strictement parlant, l'Église n'oblige sous peine de péché la confession qu'une fois par an. En fait, dans la pratique, il faut se confesser aussi à chaque fois qu'on tombe en état de péché mortel et aussi se confesser à chaque fois qu'on commence à sentir ce dégoût des choses spirituelles, cette assédie spirituelle qui commence à affaiblir notre âme. Ça, c'est le premier signe de l'assédie, premier signe du dégoût. Le deuxième signe du dégoût, c'est le dégoût de l'action de grâce après la communion. Action de grâce après la communion. Des choses que les gens savent peu faire. Ça peut faire dans certaines paroisses, quand j'ai le temps, j'aime bien, après la messe, je dirige l'action de grâce pour apprendre aux gens à faire une action de grâce. Action de grâce, c'est remercier le bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ vient dans notre âme, il nous donne son corps, son sang, son âme et sa divinité. Pensons à le remercier. Pensons à faire cet acte d'amour, justement, et apprenons à faire une bonne action de grâce. Vous pouvez utiliser les 5 lettres du mot ardor, c'est connu, qu'on apprend aux enfants, A-R-D-O-R, adoration, remerciement, demande, offrande, et prendre une résolution. Imaginez que l'enfant reçoive un beau cadeau pour Noël et qu'il ne dise même pas merci à son bienfaiteur. Mais qu'est-ce qu'il fait? La maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre le cadeau. Notre Seigneur Jésus-Christ se donne à nous par la confession, se donne à nous par la communion, on ne pense même pas à merci. Et on peut appliquer à ça la phrase que l'on dit à la fin de chaque messe, dans l'évangile de Saint Jean, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans notre loterie. Le créateur du ciel et de la terre, le sauveur du monde, le rédempteur, créateur et rédempteur du monde, vient à Bethléem, il vient chez lui, chez les siens, dans sa propre famille, chez les hommes qu'il a créés, il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. C'est un peu la même chose pour nous. Quand je tombe dans cette espèce d'ascédie, quand je tombe dans cette espèce de dégoût des choses spirituelles, je dis au bon Dieu, mon Dieu, je ne veux même plus vous dire, je n'ose même plus vous dire je vous aime. Je n'ai plus envie de vous dire que je vous aime. De même qu'un époux ou qu'une épouse qui se rend compte qu'elle a du mal à dire à son mari ou un époux à son épouse qu'il l'aime, il doit attaquer le problème. C'est ça, bon, qu'est-ce que je dois faire pour remettre un peu de bois dans le feu, pour que le feu de l'amour que je dois avoir à l'égard de mon épouse puisse de nouveau reprendre le dessus. Et donc c'est exactement la même chose pour nous. Donc il faut faire attention à tout ça. Et donc il faut vraiment demander au bon Dieu cette grâce de savoir surveiller ces deux points. Est-ce que j'ai un dégoût de la confession? Est-ce que j'ai un dégoût de l'action de grâce après la messe? Et si on surveille ces choses-là, à ce moment-là, on est en quelque sorte protégé. Alors comment lutter contre ce dégoût? Encore une fois, je vous le répète, j'insiste là-dessus, d'avoir ce dégoût des choses spirituelles n'est en soi pas un péché. Il y a des saints qui sont passés par des dégoûts de ce genre, qui sont passés parfois pendant des années et des années, ce qu'on appelle la désolation. La désolation spirituelle, c'est quoi? Désolation, c'est un dégoût des choses de Dieu. C'est ça, la désolation. Donc le démon va profiter de ce dégoût pour essayer de nous éloigner du bon Dieu. Donc il faut faire exactement le contraire de ce que le démon cherche à nous faire faire. Le démon cherche à nous pousser loin du bon Dieu. Donc on réagit justement en nous rapprochant du bon Dieu. Donc pour lutter contre ce dégoût, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire entrer ce qu'on appelle les 3 amours. L'amour de la prière, l'amour des sacrements, l'amour de l'étude. Et c'est justement en augmentant en nous ces 3 amours, l'amour de la prière, l'amour des sacrements, l'amour de l'étude, qu'on peut lutter contre cette tentation des dégoûts des choses de Dieu, des dégoûts des sacrements, des dégoûts de la prière, des dégoûts de l'étude. Donc il faut faire exactement l'inverse de ce que le démon nous cherche à nous faire faire. Mais on vit dans un monde dans lequel la foi s'est refroidie. On le voit très bien dans le monde moderne. La foi s'est refroidie. Chez chacun d'entre nous, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Alors qu'on vit dans un monde, dans une situation actuelle, dans laquelle le bon Dieu demande l'héroïsme. Il faut de l'héroïsme aujourd'hui pour être catholique. Il faut de l'héroïsme aujourd'hui pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et reprendre le chemin qui mène vers le bon Dieu. Il faut de l'héroïsme. Bon, certes, ce n'est pas les lions qui nous attendent, en tout cas pas encore, mais il faut quand même de l'héroïsme pour arriver à lutter contre toutes ces horreurs qui nous entourent autour de nous et garder la foi dans un milieu qui est complètement pourri. On était obligé de vivre dans une poubelle, mes bien chers frères, bien sûr autant que moi. Bien, dans cette poubelle, il faut arriver à ne pas se laisser contaminer. Le problème, c'est que quand on vit dans une poubelle, vous ne pouvez rien y faire, vous allez finir par sentir mauvais comme tout le monde, parce qu'on est dans la poubelle. Et donc c'est cette mauvaise odeur du péché qui nous entoure qui entraîne ce dégoût. Mais si on commence à se sentir mauvais parce qu'on vit dans une poubelle, est-ce que c'est nous qui avons choisi de vivre dans cette poubelle? Bien sûr que non. Donc le bon Dieu ne nous en veut pas. Comment voulez-vous vivre dans une poubelle et en même temps ne pas se sentir mauvais à cause de l'influence du monde moderne qui nous entoure? C'est impossible. Donc le bon Dieu en tient compte et nous donne les grâces dont on a besoin. Donc il faut vraiment demander ces grâces au bon Dieu, ces grâces de lumière, ces grâces de force justement pour pouvoir lutter contre ce dégoût. Encore une fois, avoir ce dégoût n'est pas un péché, mais ne pas lutter contre ce dégoût, quand on l'a repéré dans notre âme, là, c'est le péché qui intervient. Et je vous donne un exemple tout pratique, vous allez comprendre avec un exemple tout simple. Autour des années 60, juste après la mort du pape Pie XII, c'est encore la messe traditionnelle, hein? On est avant Vatican II, hein? Donc il y a encore la messe traditionnelle, il y a encore le catéchisme traditionnel plus ou moins, les prêtres sont encore vraiment prêtres, il y a encore la messe de toujours tous les dimanches dans les paroisses. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce dégoût est arrivé? On le voit très bien chez les prêtres des années 60, la plupart d'entre eux, hélas, il y a eu ce dégoût qui est arrivé, mais ils n'ont pas lutté contre le dégoût. Et le démon a travaillé pour enlever le bon Dieu de leur âme et le remplacer par un faux Dieu. Quel était ce faux Dieu qui a fait exploser littéralement la foi catholique, qui a détruit complètement la foi catholique autour des années 60? Il y a un faux Dieu qui est rentré, d'abord dans les presbytères de tous les curés de France. Ensuite, ce faux Dieu est rentré dans tous les monastères, dans tous les couvents, et même dans toutes les familles catholiques, ou pratiquement toutes. Ce faux Dieu des années 60, la télévision. C'est la télévision qui est rentrée à ce moment-là dans les monastères, dans les couvents, dans les presbytères, dans les familles catholiques, et qui a amené l'esprit du monde dans ces familles. Et donc, au lieu de provoquer une saine réaction pour lutter contre ce dégoût, les prêtres, surtout les prêtres, se sont laissés aller à ce dégoût, ils ont tout abandonné. Et ça a donné l'Église de Vatican II. Et donc, on n'adore plus le vrai Dieu, on adore un faux Dieu, on adore l'homme au lieu d'adorer le bon Dieu. Et donc, il faut faire un peu un examen de conscience. L'Église a choisi comme évangile de ce jour, la fin du temps, la fin du monde, pour nous rappeler que la fin est première dans l'intention, mais derrière dans l'exécution. Hein. Il faut garder cette intention. Je suis sur la terre pour aller au ciel. Rappelez-vous saint Thomas d'Aquin. Sa sœur lui demande quelle est la première condition pour aller au ciel. Réponse de saint Thomas à sa sœur, le désirer. Alors, et la deuxième condition, c'est quoi? Le désirer. Et la troisième condition, c'est quoi? Le désirer. Les grands désirs. Avoir demandé au bon Dieu, en ce début d'année liturgique, un grand, grand désir du ciel. Faut pas dire, ah, mais j'ai un dégoût des choses du bon Dieu, j'ai un dégoût de la prière, j'ai un dégoût des sacrements, j'ai un dégoût de l'étude, j'ai un dégoût de tout ça, donc c'est la fin des temps. Ah, attendez! Bon Dieu ne vous demande pas de vous décourager. Il y a un dégoût, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre le dégoût, en remettant du bois dans le feu, pour augmenter l'amour de la prière, l'amour des sacrements. Et l'amour de l'étude. Profiter par exemple du temps de l'Avent pour peut-être utiliser davantage même simplement votre missel, de relire, par exemple, préparer un petit peu en avance le dimanche suivant. On va avoir cette très belle fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. On a tous ces magnifiques textes liturgiques du temps de l'Avent. Utilisons ces textes justement pour augmenter en nous l'amour de mon Dieu. Faisons comme notre Sainte Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait, notre Sainte Vierge Marie, pendant le temps de l'Avent? Je crois qu'elle a fait la sieste toute la journée. Pas du tout. Elle commence à préparer. Elle a dû préparer la layette de l'enfant qui allait arriver. Elle a préparé son cœur à se donner encore un peu plus au bon Dieu. Bon, pour être Sainte Vierge Marie, c'est plus facile que pour nous, parce qu'il y a l'Immaculée Conception. Bon, moi, je ne suis pas Immaculée Conception, et je pense que vous non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Mais le bon Dieu nous donne les grâces. Il est obligé. Donc, ne pas se décourager, et essayer de mesurer quel est au lieu de mesurer le degré de découragement, le degré de dégoût que j'ai, demander au bon Dieu la grâce de comprendre quel est le degré d'amour du bon Dieu qui est dans mon âme. Encore une fois, beaucoup de saints sont passés par des dégoûts terribles. Un exemple classique, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son couvent à Lisieux, son couvent de Carmélite, elle a eu un dégoût terrible, terrible. Ça arrive aussi à Sainte Catherine de Siena, ça arrive à Saint Vincent de Paul, ça arrive à Saint François de Sales, des dégoûts terribles. Il n'a plus envie de prier, il ne peut plus rien faire. Saint Vincent de Paul, il a des tentations terribles contre la foi, c'est une espèce d'obsession. Il a dû écrire Le credo sur un bout de papier, il a mis le papier sous la poche intérieure de sa soutane, et quand il commençait à avoir des tentations terribles contre la foi, il mettait sa main sur son papier, là, il demandait, je crois tout ce qui est marqué sur ce papier, hein. Et à lutter contre la tentation. Donc n'hésitez pas, pendant ce temps de l'Avent, de préparer une bonne confession avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ pour la fête de Noël, de venir vous confesser quand vous en avez besoin, pas simplement encore une fois pas à cause des péchés mortels, tout simplement pour augmenter en moi l'amour du bon Dieu. À passer par la Sainte Vierge. N'oubliez pas que le temps de l'Avent, c'est un temps marial par excellence. C'est le temps de l'espérance. Celle qui est l'intermédiaire de l'espérance, c'est la très Sainte Vierge Marie. Pourquoi? C'est elle qui va nous donner l'enfant Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu venir sans passer par la très Sainte Vierge Marie. Et Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a voulu passer par elle. Il a voulu nous donner l'exemple de la très Sainte Vierge Marie, justement, pour nous aider à bien lutter contre ce dégoût des choses spirituelles. Donc ne paniquons pas. Disons, pour ceux qui vont faire les exercices cette semaine, tu sais bien, c'est la richesse extraordinaire de la retraite des exercices saint-Ignace, justement, pour remettre du bois dans le feu, en faire repartir. On a parfois un feu qui n'est pas éteint, mais les braises qui bougent un peu, on ne voit plus rien parce que c'est recouvert de sang. Il faut souffler sur la cendre, souffler sur les braises, tout repart. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider dans ce domaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.